Vous êtes sur RTL. Pascal Pro sur RTL.
Merci Christian. William Galibert va rester avec nous durant toute cette heure parce que nous attendons d'une seconde à l'autre, je l'ai dit, les déclarations de Jean Castex. Merci William d'être avec nous. Pour le moment, c'est le football et c'est le match d'hier soir. Et donc, nous étions avec Mathieu, mais on va rétablir la ligne puisque Mathieu nous a quitté quelques secondes. Et Jean-Paul est là cette fois-ci. Bonjour Jean-Paul.
Oui, bonjour Pascal.
Vous êtes satisfait ?
Évidemment. Évidemment, on est satisfait parce que on a vu, il y a trois mots que je pense qui peuvent résumer ce match. C'est solidarité, combativité et esprit. Je crois que il y a eu tout dans ce match-là, de la solidité parce que on a une équipe de France qui a prouvé que on a été costaud et que il va falloir venir nous chercher maintenant. On a été, je dirais pas dominé par les Allemands, mais ils nous ont mis une belle pression. Ils ont d'ailleurs, je crois, la possession de balle à la fin du match, elle doit être en leur faveur. Mais on a eu un grand Paul Pogba, mais aussi un Kanté exceptionnel, parce qu'en fin de match, lorsqu'on voit que Paul Pogba a du mal à revenir quand même à défendre, Kanté il est partout, il a 6 poumons ce gars.
c'est vrai qu'il y avait un milieu de terrain avec Rabiot, N'Golo Kanté et Pogba qui était exceptionnel. Est-ce que vous avez le sentiment que l'équipe de France est plus forte qu'il y a 2 ans?
Je pense, déjà, elle a gagné en maturité, donc ça, ça ne peut que être bénéfique. Et oui, elle est plus forte parce que les joueurs qui étaient là en 2018 ont pris de l'expérience, comme Pogba qui avait déjà été très bon d'ailleurs à la Coupe du Monde. Mais là, on le voit, il a pris une dimension énorme. Kanté, n'en parlons pas parce que c'est un monstre, ce bonhomme. Je pense que c'est le meilleur joueur du monde à son poste, incontestablement. Et puis on a des attaquants qui sont alors certes ils n'ont pas été très efficaces hier.
Ils n'ont pas été efficaces pour quelques centimètres parce que but de Mbappé il est exceptionnel et s'il est validé, j'ai envie de vous dire, c'est la même chose. Il est effectivement objectivement hors jeu de quelques centimètres, mais ça n'enlève rien à son talent et à la qualité du but qu'il met. C'est exceptionnel.
Il y a pénalty sur lui, absolument.
Je ne sais pas s'il y a pénalty. J'arrive pas. Voyez, j'ai revu 10 fois l'image et parfois je me dis il y a pénalty. Et parfois, je me dis, il joue le ballon.
Il prend la jambe quand même. Il prend un peu la jambe.
Il déséquilibre,
donc il y a pénalty.
Oui. Parce que j'ai l'impression qu'on peut voir 10 fois cette image et 10 fois changer d'avis.
Oui, c'est possible. Alors, j'ai entendu dire aussi que Benzema n'avait pas été très bon, mais je crois que, ceux qui ont dit ça, c'est des détracteurs, quoi qu'il en soit. Et d'autre part, on a vu les attaquants défendre. Chose qu'on ne voyait pas forcément auparavant. Et on ne parle pas de Griezmann, mais Griezmann, le travail défensif qu'il a fait, c'est énorme. Énorme. Donc, Benzema aussi est revenu défendre. Donc, on est costaud. J'espère qu'on va continuer encore en montant en puissance, mais il va falloir venir nous chercher, je peux vous le dire.
Merci Jean-Paul, vous êtes le premier auditeur qui intervient. Nous avons les yeux fixés sur le perron de l'Élysée pour tout vous dire, parce que nous attendons, on l'a dit, une déclaration qui pourrait être importante, William Galibert. Est-ce qu'on sait d'abord la forme de cette déclaration? Est-ce que c'est sur le perron de l'Élysée que le Premier ministre avec Olivier Véran va s'exprimer?
Ces messieurs vont se déplacer dans une petite salle attenante au palais, qui est une salle de presse, où le pupitre est déjà prêt pour accueillir Olivier Véran et Jean Castex. Les ministres sont sortis, ça y est, du Conseil des ministres, mais il va y avoir encore quelques minutes de préparation. Là, on fignole les petites fiches. Qu'est-ce que va annoncer le Premier ministre? Vraisemblablement, l'avancée de la fin du couvre-feu qui était donc prévu jusqu'au 30 juin et qui pourrait être supprimée bien avant ça. Le port du masque, là, on reste beaucoup plus prudent parce que l'exécutif maintient pour l'instant un calendrier à partir plutôt du mois de juillet.
Et c'est Jérôme Salomon qui, au micro de Benjamin Sportouche, disait lundi que le masque pourrait sauter le 1er juillet, si j'avais bien compris. Ça a été démenti quelques minutes plus tard.
Le ministère de la Santé a répondu, attention, tout n'est pas décidé.
Exactement.
Et de son côté, le président Macron avait indiqué que cette fin du port du masque se ferait de manière un peu graduée. différemment selon les territoires, selon les régions, en fonction, là encore, des chiffres et des indicateurs. Donc la fin du port du masque est plus, peut-être un peu plus lointaine que celle du couvre-feu. Ça,
et
c'est
Olivier
clair.
Véran a pris la parole hier, il était dans un centre de vaccination, il a dit que c'était pas forcément à l'ordre du jour et que ça pourrait être durant l'été, pour reprendre. Alors durant l'été, c'est assez vague puisque l'été commence le 21 juin, comme vous le savez. Je salue Greg Caranoni qui, lui, a son masque, comme toutes les
Bien
personnes
sûr,
qui sont en régie
tous.
Aujourd'hui, et je les salue également. On va marquer donc une pause, et puis football, Jean Castex, c'est notre menu pour le moment. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Finalement, c'est une belle séquence. L'équipe de France a gagné hier et nous devrions apprendre dans quelques minutes que nous sommes libérés, figurez-vous. Ce couvre-feu qui existe en France depuis combien de temps, William Galibert, le couvre-feu ?
Ça fait près de 245 jours, je crois, à quelques jours près, que le couvre-feu est en vigueur. Pas partout, parce que ça avait d'abord commencé
c'est pas rien,
par
quand même.
Plusieurs grandes métropoles, mais presque 250 jours consécutifs. Alors, l'une des questions auxquelles Jean Castex va répondre dans quelques minutes, il n'est toujours pas installé à son pupitre, mais c'est de savoir à quelle date ce couvre-feu va être décalé. Il y a plusieurs...
Ah, il devait être arrêté le 30 juin, donc j'imagine que là, il va l'arrêter ce soir.
Il y a plusieurs échéances. Il y a par exemple la fête de la musique qui tombe lundi 21 juin.
Lundi 21 juin, oui.
Ça peut rentrer dans les calculs.
Jour de l'été, vous avez raison.
Libérer tout le monde et en faire un symbole ou s'inquiéter d'une soirée un petit peu trop festive.
Au point où on en est. Alors, je précise quand même que c'est important de le dire, France-Hongrie, c'est à 15h.
C'est à 15h samedi.
Donc, c'est pas concerné par les débordements.
Portugal-France, c'est à 21h, mercredi prochain.
Oui, donc là, on sera libérés. Sylvain est avec nous pour parler de la rencontre d'hier soir qui habite la Vendée. Bonjour Sylvain.
Oui, bonjour Pascal.
Vous avez regardé avec des amis hier soir en famille ?
Voilà, c'est ça, avec des amis, oui.
Vous étiez combien ?
Une dizaine, à peu près.
Et comment ça s'est passé ?
Ça s'est passé, c'était très bien. C'était très bien, mais sauf que voilà, je voulais revenir moi sur l'arbitrage. Surtout l'arbitrage vidéo en fait. On était unanime avec les copains, on se disait, mais là... ça casse toute l'ambiance. Quoi. C'est, au début, moi, avec l'arbitrage vidéo, j'étais plus ou moins contre. Enfin, j'avais pas trop d'avis. Mais là, plus ça va, plus je trouve que ça casse toute l'ambiance du foot. Quoi. On vibre plus. Enfin, on vibre beaucoup moins. On vibre moins. Quoi. Et puis, pour en revenir à cet arbitrage vidéo aussi, c'est l'arbitre. Alors, soit il fait l'arbitrage vidéo, mais alors pour tout. Donc, pour les hors-jeux, ok, il y avait hors-jeux. Ben dans ces cas-là, qu'ils prennent l'arbitrage vidéo pour la faute sur Mbappé, le pénalty non sifflé. Quoi. Et puis Pogba qui s'est fait mordre aussi. J'ai appris ça aussi. Je trouve ça, enfin voilà, je trouve que c'était pas terrible au niveau de l'arbitrage. Je sais pas ce que vous en pensez.
Moi, je suis d'accord avec vous. Donc, et pour tout vous dire, c'est terrible parce que j'étais pour la vidéo. J'imaginais que ce serait une bonne chose pour le foot et je me rends à vos arguments. Mais en même temps, alors que je vous interromps parce que Jean Castex vient d'arriver à l'instant. Jean Castex est en place au Palais de l'Élysée et Jean Castex va annoncer la levée du couvre-feu. Est-ce ce soir ? Est-ce le 21 juin, comme le disait ?
Conseil des ministres. Écoutons-le. Qui vient de s'achever et du Conseil de défense et de sécurité nationale qui s'est tenu ce matin sous l'autorité du président de la République. Je viens devant vous faire un point sur l'évolution positive de la situation sanitaire, sur la campagne de vaccination et vous annoncer l'adaptation de certaines de nos mesures sans attendre la prochaine échéance du 1er juillet prochain. En effet, la situation sanitaire de notre pays s'améliore et elle s'améliore même plus vite que nous l'avions espéré. Les chiffres sont là. Nous étions hier soir à 3200 cas positifs sur la moyenne des 7 derniers jours. Nous n'avons pas connu un niveau de circulation virale aussi bas depuis le mois d'août dernier. Nous nous situons donc désormais en deçà du seuil des 5000 cas par jour, qui correspond, vous le savez, au seuil de maîtrise de l'épidémie permettant un traçage fin et exhaustif de l'ensemble des cas positifs. Deuxième point très important, cette amélioration concerne l'ensemble du territoire métropolitain. Sur 96 départements, 89 connaissent un taux d'incidence inférieur à 50 pour 100 000 et aucun département ne présente à ce jour de dynamique inquiétante. La situation sanitaire des départements et territoires d'outre-mer est également en nette amélioration, même si nous restons particulièrement vigilants sur la situation de la Guyane, où nous déployons des moyens supplémentaires pour accélérer la vaccination et assurer la prise en charge des malades. Troisième point, la pression sur nos services hospitaliers. Cette pression a enfin fortement baissé. Nous comptions hier soir moins de 2000 personnes hospitalisées de la Covid en soins critiques. Après de longs mois d'une mobilisation intense et très éprouvante de l'ensemble des personnels soignants, cette évolution est évidemment particulièrement positive. Elle va permettre à nos soignants justement de souffler et à nos hôpitaux de retrouver un mode de fonctionnement plus normal. Ces évolutions positives sont à mettre sur le compte de la mobilisation des Français et du succès de la campagne de vaccination. Là aussi, nos objectifs ont été tenus, nos échéances ont été respectées. Plus de 30 millions de personnes ont reçu, et ce, avant même l'échéance du 15 juin qu'avec Olivier Véran nous avions fixé, une première dose de vaccin. Beaucoup en doutaient, nous l'avons tous ensemble fait. C'est évidemment une très bonne nouvelle, surtout si l'on se souvient des critiques qui avaient accompagné la présentation de notre stratégie de sortie de crise fin avril dernier, quand certains le trouvaient trop rapide et pas assez prudent. Compte tenu de ces résultats, et là est bien l'essentiel, il est normal que nous ajustions nos mesures et certains éléments de notre calendrier tout en maintenant un haut niveau de vigilance au cours des prochaines semaines en cas d'évolution contraire. Depuis le début de la crise, le gouvernement a toujours voulu agir de manière réactive, pragmatique et proportionnée. Cela vaut quand la situation se dégrade, cela vaut aussi quand elle s'améliore et a fortiori quand elle s'améliore plus vite que prévu. Le Conseil de défense et de sécurité nationale, qui s'est réuni ce matin sous l'autorité du président de la République, a donc acté les décisions suivantes. Nous allons lever l'obligation générale du port du masque en extérieur. Le Haut Conseil de santé publique nous a adressé hier un avis sur le port du masque en extérieur, dont nous allons tirer les conséquences sans délai. Le port du masque en extérieur ne sera donc plus obligatoire, sauf dans certaines circonstances. Quand on se regroupe, quand on se trouve dans un lieu bondé, une file d'attente, sur un marché ou encore dans les tribunes d'un stade. Les arrêtés préfectoraux qui régissent le port du masque en extérieur seront donc modifiés dès demain pour traduire cette nouvelle règle de bon sens au regard de l'évolution de la situation épidémique. Bien sûr, le port du masque restera obligatoire dans les lieux clos, notamment au travail, dans les commerces, dans les transports et dans tout lieu de rassemblement. Deuxième évolution, le couvre-feu à 23 heures, qui devait, vous le savez, s'appliquer jusqu'au 30 juin, cessera de s'appliquer à compter de ce dimanche, soit 10 jours avant la date prévue. Si cette mesure de couvre-feu répondait à un vrai besoin pour accompagner la fin de la troisième vague, les très bons résultats enregistrés ne le justifient plus. Du reste, vous le savez, seuls trois pays, dont la France, y recouraient encore, et la Grèce, qui fait partie de ces trois pays, a également décidé de le supprimer. Cela ne signifie cependant pas que deviendront possibles des rassemblements sauvages, festifs, sans respect des règles barrières, que cela se produise d'ailleurs en début ou en fin de soirée. Je voudrais apporter quelques précisions complémentaires. D'abord, toutes les règles de jauge qui s'applique jusqu'au 30 juin pour les bars, les restaurants, les établissements sportifs ou culturels et tous les équipements ou événements susceptibles d'accueillir du public ne sont pas modifiés. Nous confirmerons la semaine prochaine ce que seront les nouvelles règles qui s'appliqueront à compter de juillet, comme prévu. Deuxièmement, le protocole concernant l'organisation des concerts de la fête de la musique, ce protocole est maintenu. Je vous rappelle qu'il prévoit la possibilité de faire des concerts selon les règles en vigueur, principalement en extérieur, dans un cadre organisé, dans le respect des gestes barrières. Ça veut dire, comme l'année dernière, du reste, pas de concerts sauvages suscitant des attroupements sur la voie publique. Nous allons également renforcer nos actions de surveillance et de prévention face aux nouveaux variants, et en particulier aux variants indiens dit Delta. Pour cela, le ministère de la Santé déploie et accentue ce qu'on appelle le criblage et le séquençage de ces variants afin de le traquer le plus efficacement possible et évidemment de prendre toutes les mesures épidémiologiques rend nécessaire sa détection. Dans le même ordre d'idée, le président de la République a demandé que les contrôles aux frontières soient encore renforcés et adaptés, notamment dans les aéroports et dans les ports. Enfin, et j'y insiste devant vous, si nous devions faire face dans les prochaines semaines à des phénomènes de reprise épidémique, évidemment, comme nous l'avons toujours fait, nous n'hésiterions pas à prendre de nouvelles mesures pour réagir rapidement. Je le dis aux Françaises et aux Français, les très bons résultats que nous avons obtenus, nous les devons à l'effort de tous. Nous devons aussi au progrès de la vaccination. Nos vaccins sont efficaces, très efficaces, y compris contre les variants. 30 millions, je l'évoquais tout à l'heure, de primo-vaccinés, c'est une étape majeure. Mais ce n'est qu'une étape. L'enjeu des prochaines semaines, si nous voulons nous mettre à l'abri de toute nouvelle vague, c'est de continuer à nous vacciner. Se faire vacciner, c'est se protéger, c'est aussi protéger les autres. Nous serons en capacité de tenir notre engagement, proposer la vaccination à tous les adultes d'ici la fin de l'été. Nous avons, vous le savez, ouvert la vaccination hier aux 12 à 18 ans. Nous devons ne rien lâcher pendant les prochaines semaines. À fin août, autour de la rentrée, nous devons avoir atteint trois cibles. 40 millions de personnes primo-vaccinées. 35 millions de personnes ayant reçu une vaccination complète. 85% des plus de 50 ans et des adultes atteints de comorbidité ayant reçu une première dose. Cette mobilisation autour de la vaccination concerne tout le monde, mesdames et messieurs, les soignants, les aidants, mais aussi les jeunes. Les jeunes, vous le savez, s'ils présentent moins de risques de développer des formes graves de la maladie, ils contribuent à la diffusion du virus, comme nous l'avions vu l'été dernier, à l'occasion des vacances. Alors je m'adresse tout spécialement à eux, vous êtes concernés, prenez toute votre part. Faites-vous vacciner aujourd'hui parce que c'est le meilleur rempart contre la reprise épidémique et donc contre les retours de mesures de restrictions sanitaires. C'est notre intérêt collectif.
C'est notre intérêt collectif, effectivement, ces deux mesures importantes, la fin du masque et la fin du couvre-feu ce dimanche. Et nous allons débriefer ce qu'a dit le Premier ministre avec William Galibert. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
William Galibert, disons-le, vous représentez le service politique, disons-le, il n'y a pas toujours des raisons d'être joyeux ces temps derniers. Eh bien, aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle, faut le dire.
Même, on a vu pas mal de sourires sous les masques au moment de l'annonce de Jean Castex. Les masques, c'est bientôt fini. Demain, vous pouvez l'enlever. À l'extérieur, il sera seulement obligatoire dans les transports et en intérieur. Ça, c'est pour le masque et c'était plutôt inattendu parce que ces dernières heures encore, on nous parlait d'un calendrier plutôt cet été, progressivement et à partir du mois de juillet. Le masque, demain, en extérieur, c'est terminé. Et le couvre-feu, après près de 250 jours de couvre-feu imposé à différents endroits du territoire, eh bien, ça devrait prendre fin dimanche soir. Si on comprend bien ce que nous a dit Jean Castex, le dernier couvre-feu aurait lieu dimanche à 23h et lundi 21 juin, symboliquement pour l'été, le début de l'été, la fête de la musique, eh bien, ce couvre-feu ne serait plus en vigueur. C'est assez saisissant ce qui s'est passé parce qu'il y a encore 48 heures, on nous répétait qu'on restait sur le calendrier qui était fixé. Et puis... je pense que politiquement, il y avait un moment dont Emmanuel Macron particulièrement voulait profiter, une sorte d'alignement de planète. Voilà, il fait beau, les sourires sont sur les visages.
La France, France a gagné hier
gagne
soir.
En Allemagne. Mais oui, ça fait
mais
aussi
non,
partie
sûr, raison,
de ces choses-là,
raison.
De ce moment dont il faut profiter, quitte à voilà, un petit peu abréger nos souffrances sanitaires.
Benjamin Davidot va être avec nous dans une seconde. On va peut-être passer un moment de pause, cher Greg Caradoni. Et nous revenons avec Benjamin Davidot, infectiologue. Est-ce qu'il valide ces doubles mesures, ces doubles mesures ?
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Porter le masque à l'extérieur ne sera plus obligatoire à partir de demain et le couvre-feu n'existera plus à partir du lundi 21 juin, le début de la fête de la musique. Nous sommes avec Benjamin Davidot, qui est infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Bonjour.
Bonjour Pascal Praud.
Est-ce que vous validez ?
Écoutez, en tout cas, ça va dans le sens de ce qu'on discutait il y a 48 heures sur la même chaîne radio. Donc oui, je pense que c'est bien. Après, il faut que ça s'inscrive dans un contrat parce qu'il ne faut pas que le message, ça soit il n'y a plus de masque, il n'y a plus de couvre-feu, l'épidémie est derrière nous, on fait n'importe quoi. Pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron, c'est la bamboche. Parce que la réalité, c'est que si on ne fait pas chacun un effort quotidiennement, et notamment, je pense, au relais de la vaccination et à l'utilisation largement de ce pass sanitaire, on n'est jamais à l'abri que le virus reprenne le dessus, notamment l'automne prochain.
Si vous me permettez, Benjamin Davidot, vous étiez un peu plus réticent il y a 48 heures. Vous souhaitiez que le calendrier aille, pourquoi pas, dans son déroulement qui était attendu, et notamment le masque à l'extérieur. Vous pensiez que c'était encore peut-être un peu tôt.
Alors pour être clair, moi, mon chiffre, hein, c'est 50% de primo-vaccinés. Donc j'avais dit qu'on y arriverait à la fin du mois et que dans ce sens, je soutenais la décision qui était proposée par Jérôme Salomon. Je ne crois pas qu'on soit à 10 jours près dans un sens ou dans l'autre. En revanche, là où vous avez raison, la petite nuance, c'est que le couvre-feu soit à 23h ou minuit. Pour moi, d'ailleurs, ça ne change pas grand-chose. Ce qui, pour moi, change, c'est qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire, quel est le message véhiculé ? Est-ce que on se retrouve parce qu'il n'y a plus de couvre-feu, et ça, je pense que ça, c'est dangereux, entre guillemets, et que le couvre-feu avait cette vertu, il l'a encore, d'ailleurs, jusqu'à dimanche, c'est-à-dire qu'il évite les rattroupements de personnes et de surcroît non masquées dans des situations où on a un risque de se contaminer. Je crois que la réalité, c'est qu'on fait le pari que les Français ont compris, vont être raisonnables, il faut s'en satisfaire et espérer que ça se passera bien, et comme vous le savez, moi je suis plutôt très optimiste, mais encore une fois, la solution pour sortir durablement de cette crise, c'est la vaccination ARN messager, j'insiste, parce que c'est celle qui nous permet d'être couverts largement face aux différents variants, et il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas.
William Galibert, vous pouvez peut-être rappeler à Benjamin Davidot la philosophie qui gouvernait peut-être le ministre de la Santé ou le ministère de la Santé, qui était très prudent à l'idée d'enlever le masque à l'extérieur.
Il est dans son rôle Olivier Véran, il faut toujours un petit peu un père fouettard, et donc c'est aussi lui qui nous rappelait que le variant indien était toujours là. Et il y avait aussi cette idée, c'est vrai, que enlever le port du masque à l'extérieur allait peut-être faire diminuer la vigilance des gestes barrières à l'intérieur. Hein, pour caricaturer, si on leur fait enlever le masque à l'extérieur, eh bien, peut-être qu'ils auront du mal à le ressortir de leur poche pour rentrer dans un magasin ou pour faire les courses. Donc, bon. Et puis, il y a cette réalité des chiffres que le docteur rappelait. Il y a aussi la réalité des choses qui guide le choix de l'exécutif. Dans les faits, le couvre-feu à 23h, il est de moins en moins respecté. Et on peut imaginer, on l'a vu hier soir, et il va y avoir d'autres matchs de foot, beaucoup pour l'équipe de France, on l'espère, mais que concrètement, ce couvre-feu n'existe plus.
Benjamin Davidot, répondez sur ce fait. Les Français ne le porteront plus à l'extérieur mais ils devront le porter à l'intérieur. Est-ce qu'ils sont quand même assez intelligents pour comprendre ça?
Écoutez, je pense la même chose que vous, j'ai envie de dire. Je pense que oui, là, largement, les Français savent très bien que le virus est là. Ils ont bien compris le port du masque à l'intérieur. Je pense qu'en plus, c'est facile parce qu'on peut mettre un petit autocollant sur les vitrines des boutiques, de ce que vous voulez. Là où il va falloir de la pédagogie, j'insiste sur la pédagogie, c'est des situations au cas par cas où quand vous serez à la plage et que vous êtes en maillot de bain, eh bien, il va falloir se débrouiller pour avoir un masque sous la main pour lorsqu'on va ensuite rentrer à l'intérieur, surtout dans une situation où on considère qu'il y a un risque, eh bien, avoir un masque, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a accès à un masque.
Dernière chose, Monsieur Davido, est-ce que vous êtes surpris quand même? Surpris combien les chiffres sont étonnamment bons? Et j'ai encore dans l'oreille ce que certains de vos collègues disaient il y a encore un mois et demi. On ne va pas les citer, mais qui annonçaient que c'était trop tôt, le 19 mai, les mesures de déconfinement, qu'on allait dans le mur. On a entendu cela, d'où nos réticences parfois sur la parole entre guillemets des sachants.
Oui, non, bien sûr, on l'a observé. La réalité, c'est qu'il y a une saisonnalité et que les chiffres ont démenti, pour reprendre une expression d'Olivier Véran, on a fait mentir les chiffres, je ne sais pas comment on peut le dire, mais c'est sûr qu'on est tous un peu surpris parce que les chiffres sont extraordinairement bons et clairement, ça va au-delà de nos espérances alors que depuis plusieurs mois, certains agitaient le chiffon rouge des variants, alors que la réalité, c'est qu'à partir du moment où on fait attention, à partir du moment où on se vaccine, on a les clés pour sortir de cette épidémie et il faut s'en féliciter.
Eh ben merci pour votre sincérité et votre franchise d'accepter que vous-même soyez surpris. C'est une forme d'humilité, hein, bien sûr, devant des phénomènes naturels comme cette pandémie. Et ça montre effectivement qu'on ne sait pas tout. Et finalement, c'est une bonne chose quand les sachants, entre guillemets, le disent, Monsieur Davido.
Bon, je crois qu'il faut rester humble, vous avez raison, absolument.
Mais c'est vrai aussi pour les journalistes que nous sommes, bien évidemment, cette exigence d'humilité. On essaye en tout cas. Merci beaucoup, Monsieur Davido. Il est 13h36, mais c'est vrai qu'on est plutôt joyeux, pour tout vous dire. Moi, je suis plutôt heureux parce que ce masque à l'extérieur, je n'en pouvais plus.
En fait, j'allais vous dire, mais ça ne va rien changer pour vous.
Ah si, le masque à l'extérieur, je le portais.
Ah, vous le portiez.
Mais vous rigolez.
Et le couvre-feu à 23h, vous qui vous couchez à 21h, ça ne change rien non plus.
Non, le couvre-feu, c'est autre chose. Mais évidemment que je le portais. Bien sûr que tu le portes.
Ah, pardon.
Bien évidemment, ne venez pas sur ce terrain-là. William va évidemment débriefer avec nous. On parle également du match de l'équipe de France. On est dans une forme d'euphorie. C'est paradoxal quand même aujourd'hui, entre la France qui gagne et la France qui perd son masque.
Un petit mot de Jean Castex.
C'est évidemment une très bonne nouvelle.
À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et donc, depuis quelques minutes, nous sommes libérés avec le masque. Nous ne sommes plus obligés de porter à l'extérieur à partir de demain. Et puis, le couvre-feu va cesser. Ce sera la première journée sans couvre-feu, le lundi 21 juin, à l'occasion de l'été, du jour de l'été, de la fête de la musique. Nous sommes avec Jacques, qui est télévendeur dans le Jura. Bonjour Jacques.
Bonjour Pascal.
Votre première réaction à ce sujet?
Mi figue, mi raisin, heureux et malheureux.
Pourquoi malheureux?
Non, pas malheureux, mais par rapport aux masques, j'ai bien compris quand même que les masques vont être obligatoires dans les stades encore.
Oui. Bah, dans les grands rassemblements, mais on voit bien que si les chiffres baissent, tout cela va s'étioler et pourquoi pas disparaître.
Mais j'étais en train de regarder sur les hippodromes quand je vois les pauvres jockeys, comme on dit, de mettre un masque. Je pense que je ne sais pas si eux vont avoir le droit de l'enlever. C'est assez rigolo.
C'est vrai que je n'avais pas imaginé que effectivement les jockeys gardent leur masque sur le nez.
Ils ont toujours gardé leur masque depuis le début. Hein. Je pense qu'ils avaient peur de transmettre le Covid au cheval.
Oui, bon, mais vous, par exemple, à titre personnel, vous êtes plutôt heureux de vous balader dehors sans masque?
De toute façon, je vais vous dire, ça fait un moment que je me balade dehors sans masque, hein, parce que moi, je regarde autour de moi, s'il n'y a pas de personne à moins de 100 mètres, le masque, je ne le porte pas. Hein, ça fait un long moment que je ne le porte plus.
D'autant qu'il n'est pas obligatoire de ne pas porter le masque, je le rappelle. Si vous souhaitez continuer à le porter, mais ne vous gênez pas. Gardez-le si vraiment vous êtes dans une peur XXL.
Je vais vous dire, c'est quand même insupportable ce masque, hein, c'est insupportable de porter. Je pensais franchement qu'il allait annoncer le masque totalement, sauf à l'intérieur où je veux bien croire et encore que.
C'est un peu ça qu'il a annoncé, puisqu'il reste à l'intérieur.
Ouais, mais enfin, je vais vous dire, stade, tout ça, tout.
C'est
tout,
vrai, grand rassemblement, vous avez raison, il aurait pu également.
Mais on n'a pas annoncé encore, on va voir encore des stades à trois quarts vides, hein, quand même. Il n'y a pas encore d'ouverture totale. Donc, c'est bien dans un premier jet. J'ai entendu aussi pour la fête de la musique, ça m'a fait assez sourire, parce que nous, on est un petit peu concernés, puisqu'on vend de la limonade, hein, chez nos amis bistrotiers. Ça va être marrant de faire une fête de la musique, comme j'ai compris, sans rassemblement, plutôt assis dans une enceinte fermée. Je peux vous dire que quand vous avez 200 furieux qui ont bu 2-3 bières pour les laisser assis, c'est pas simple. Hein. J'ai pas compris pour la fête de la musique. J'avoue que je sais pas qui est concerné et qui est pas concerné. J'avoue que c'est un petit peu flou pour moi.
On va être avec Philippe Amouyel dans une seconde, qui est épidémiologiste, mais on va essayer de décoder aussi politiquement avec William Galibert. Et on se rend compte d'une réalité depuis fin janvier. C'est le président de la République qui est aux commandes. Parce qu'hier, le ministre de Véran annonçait que nous porterions encore le masque à l'extérieur plusieurs semaines. C'était ce qu'il disait, plusieurs semaines.
C'est clairement lui, Emmanuel Macron, qui mène la danse. Et à chaque fois, on raconte que ces deux lignes s'opposent un petit peu... je caricature, mais celui qui veut tout ouvrir le plus vite possible est dans son rôle, Emmanuel Macron, et ceux qui essayent de le retenir des quatre fers, ils sont dans leur rôle, là aussi, le ministre de la Santé en premier lieu. Mais effectivement, en plus, voilà, on parlait de ce moment, un peu moment de joie, parce que le soleil est là, parce que la France gagne, parce que ceci, parce que cela. Bon, il y a aussi un moment très politique qui arrive, c'est le premier tour des régionales dimanche. Ça peut pas faire de mal, j'ai envie de dire.
Non, mais vous avez parfaitement raison. C'est un geste politique, mais c'est possible que ça crée un nouveau climat.
C'est pas ça qui va faire glisser un bulletin La République En Marche aux électeurs, mais enfin, ça peut pas faire de mal d'annoncer à 4 jours d'un scrutin national que les choses vont mieux, que les chiffres vont mieux, que dans la rue, ça va se voir, qu'on va enlever le masque et qu'on va se sentir littéralement un peu plus libre.
Philippe Amouyel, épidémiologiste, ancien directeur de l'Institut Pasteur de Lille. Bonjour, monsieur Amouyel.
Bonjour.
Votre avis sur cette mesure, est-ce que vous validez ?
Alors, en pratique, il faut la remettre dans le contexte. On est tombé à moins de 40 d'incidence en France. Je vous rappelle que le seuil d'alerte, c'est 50. Donc, on est en dessous des seuils d'alerte les plus bas. Donc, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Il faut s'en réjouir. Ça a deux conséquences. Ça permet de faire ce qu'on appelle un testé, tracé, isolé efficace, y compris même de faire un rétro-tracing. Donc ça, c'est un outil qui se met en place qu'on ne pouvait pas
avoir.
C'est quoi
le rétro-tracing ?
Eh bien, quand on vous trace et on vous trace, c'est pour savoir qui vous avez contaminé. Maintenant, le rétro-tracing, c'est pour savoir qui vous a contaminé. Et ça permet de mieux cerner le virus. Vous savez, ces pays qui utilisent la stratégie zéro Covid, ben c'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est en remontant très rapidement sur l'origine de votre infection qu'ils arrivent à bloquer et à tomber à un niveau de zéro Covid. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. On a donc deux nouveaux outils à notre main. Maintenant, la notion de on supprime le couvre-feu qui était à 23h, on l'enlève complètement, je ne pense pas sincèrement que ça va changer grand-chose. Là où le couvre-feu impacte, c'est en particulier quand il est vers 20h, 19h ou 18h. 23h, ça touche moins de monde qui reste au-delà dans la rue à 23h ou qui va se rencontrer. Les gens vont finir par dormir. Quant au port du masque, je crois que là, c'est un message que passaient moi-même plusieurs de mes confrères sur un port du masque intelligent. C'est-à-dire que dire systématiquement, on porte le masque tout le temps, dans les conditions actuelles, avec les niveaux d'infection, on peut vraiment se poser la question de son intérêt. En revanche, l'utiliser de manière raisonnée, c'est-à-dire quand vous êtes tout seul, que vous prenez votre chien le soir à 23h, maintenant à minuit si vous voulez, ça n'a aucun intérêt. En revanche, si vous rentrez dans un magasin, si vous prenez un bus complètement bondé, là oui, ça a encore un intérêt, parce qu'aujourd'hui, on est quand même toujours, si on regarde ce qui se passe au Royaume-Uni, sous la menace de variants. Et on n'est pas encore complètement assez vacciné pour pouvoir complètement se libérer. Donc là, c'est vraiment, c'est ça, un port du masque intelligent.
Et le masque à l'intérieur, alors le calendrier selon vous, c'est quand ?
Alors le masque à l'intérieur, c'est différent, parce qu'à l'intérieur, votre risque de contamination est extrêmement élevé, puisque c'est les aérosols. Et ces aérosols, quand votre intérieur n'est pas ventilé, ou quand vous n'êtes pas dans votre jardin, si vous avez la chance d'en avoir un, là, le risque de contamination est très significativement augmenté par rapport au risque en extérieur. Donc en intérieur, il va quand même falloir attendre qu'il y ait suffisamment de gens vaccinés.
Mais, donc c'est l'immunité collective qui déterminera la fin du masque à l'intérieur ?
Alors, c'est l'immunité collective et la vaccination. Parce que si on prend maintenant exemple sur ce qu'ont fait les Américains, ils ont sorti une série de recommandations sur les gens vaccinés. Et en particulier, quand vous êtes entre-vaccinés, à l'intérieur, vous pouvez tomber le masque. Au-delà de ça, si vous avez par exemple une personne qui avec vous n'est pas vaccinée ou qui est fragile et qui est non vaccinée, je vous rappelle qu'en France, on n'a pas encore fini de vacciner toutes les personnes fragiles, il va falloir mettre un coup d'accélérateur là-dessus, à ce moment-là, vous reportez un masque en intérieur parce qu'il y a un risque. Et puis après, c'est d'appliquer les mesures d'aération en intérieur. C'est vraiment ça qui est important.
Bon, et évidemment, vous ne pouvez pas me donner une date. J'aime bien une date. Et puis ceux qui nous écoutent aimeraient savoir si c'est le 15 juillet, le 15 août, c'est quoi votre pronostic ?
Le pronostic, ça va vraiment dépendre de la vitesse de vaccination. Aujourd'hui, on vaccine extrêmement vite. Et pour lutter contre le fameux variant Delta, anciennement variant indien, on s'est rendu compte que pour vraiment être protégé, il fallait être au moins à 10 jours de sa deuxième dose. En France, on est à peu près à la moitié de la population française vaccinée, un cinquième à deux doses. Donc plus on progressera vite dans cette direction, plus on libérera cela en intérieur rapidement. Donc voilà, c'est vraiment cet enjeu. Et aujourd'hui, il y a plusieurs éléments en jeu. Est-ce qu'on va avoir suffisamment de jeunes qui vont se vacciner ? Est-ce qu'on va pouvoir finalement vacciner les personnes qui ne sont pas vaccinées et qui sont fragiles ? Est-ce qu'il ne va pas y avoir de freinage à cause des vacances ? Est-ce qu'on va pas le plafond de verre ? Donc là, je ne ferai pas de pronostic tant qu'on n'a pas répondu à ces questions.
Bah merci vraiment, merci Monsieur Amouyel pour la qualité de vos réponses. Là encore, il est 13h48, une pause, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Il nous reste quelques minutes pour évoquer, on voulait beaucoup parler de France-Allemagne d'hier soir, mais évidemment l'information du jour c'est le couvre-feu et les masques qui tombent. Fabrice, bonjour.
Bonjour Pascal Pro.
Bonjour et merci d'être avec nous. Votre réaction ?
Bon bah écoutez, je pense que le gouvernement vient de sortir sa roue de secours.
C'est-à-dire ?
Bah, vient de sortir sa roue de secours avant l'échéance de dimanche et du deuxième tour électoral. C'est-à-dire qu'entre guillemets, si on peut faire un parallèle avec le football, ils savent déjà qu'avant l'électorat, ils ont déjà un genou à terre.
Vous pensez qu'il y a un lien de cause à effet entre l'annonce et le fait que le premier tour des élections soit programmé dimanche ?
Bien sûr, tout est fait pour déjà séduire la jeunesse de se déplacer et d'éviter une abstention, donc d'aller les faire voter, sachant que la fête de la musique arrive. On va se retrouver quand même avec une majorité quand même de jeunes dans la rue, et je les comprends très très bien de pouvoir fêter la fête de la musique. Mais à un moment ou à un autre, on va avoir des rassemblements. Les premières images qui sont tombées après le match de l'équipe de France hier sur le port de Marseille.
Mais vous n'êtes pas convaincu par les chiffres qui baissent, par les arguments de Jean Castex ? Non, mais vous savez,
les chiffres ont baissé à trois reprises en France et on nous a reconfinés, déconfinés, reconfinés. Donc,
oui, là, les chiffres n'ont pas été aussi bas depuis août dernier. Le taux d'incidence, il est de moins de 40.
Oui, mais ce n'est pas dû à la vaccination. La vaccination n'est pas un pare-feu. Hein. La vaccination ne permet pas le fait
de... Il y a la saisonnalité, il y a sûrement beaucoup de... Mais là où vous avez raison, c'est que c'est assez complexe à comprendre, mais paraît-il que ce n'est pas la vaccination qui fait baisser le taux de reproduction du virus. Donc c'est assez complexe. Martin Blachier explique ça d'ailleurs très bien, il va être là dans une seconde. Fabrice, oui ?
Oui, c'était des mesures qui étaient appliquées. Alors, je peux comprendre pour le couvre-feu, de toute façon, on ne pourra pas, entre guillemets, avec l'euphorie des matchs à venir, quel qu'il soit, contrôler les jeunes à partir de 23h. C'est pas possible. On a vu les premières images, mais je vous l'avais dit à l'antenne il y a à peu près très récemment. Donc, tant mieux. Bah, maintenant, écoutez, même moi, je suis policier, on va reprendre nos contrôles normaux. On va se retrouver avec des gens. Je vais voir comment les restaurateurs ils vont finir.
Vous n'avez pas l'air enchanté, en tout cas.
Non, je suis pas enchanté, parce que là, franchement, annoncer ça à trois jours des élections, je peux vous assurer que des polémiques, il y en a dans le monde du football, il y en a au niveau politique, la récupération, il y en a de partout.
Moi, enfin, je suis désolé, vous êtes ronchon, moi je suis plutôt content qu'on ait plus de masques, je pensais que tout le monde serait heureux et vous ne l'êtes pas.
Non, mais je suis heureux de ne plus porter le masque, parce que même moi, quand je sors de mon commissariat pour aller à ma voiture, je suis tout seul, j'ai pas besoin du masque. Mais arrêtez, il faut qu'ils arrêtent de dire que les rassemblements ici et là, le port de masque sera obligatoire, parce que ça va créer aussi peut-être une haine des gens. Vous allez vous retrouver tout seul parmi une masse de gens qui ne porteront pas le masque, qui seront ébréchés et tout ça. Et limite, il va y avoir de la violence parce que vous portez le masque et on va vous l'arracher. Et bon, on en reparlera de tout ça.
Non, mais c'est pour ça que c'était... Je dis toujours la même chose, cette émission, elle est passionnante. Pourquoi ? Parce que vous avez une réaction du terrain. Vous connaissez comment ça se passe. Vous êtes le policier qui est au contact en permanence. Donc ce que vous dites, c'est sans doute ce qui va se passer. Et évidemment, on ne peut pas forcément l'imaginer si on n'a pas le vécu que vous avez. Donc c'est pourquoi votre témoignage est intéressant. Merci Fabrice. Martin Blachier est avec nous. Martin, merci
d'abord d'être avec nous. Est-ce que vous validez cette mesure du masque à l'extérieur? Je connais votre réponse parce que ça fait plusieurs fois que vous dites que le masque à l'extérieur ne servait à rien. Donc.
Ouais, ouais, tout à fait. Je valide et je salue aussi la réactivité de la prise de décision. Je m'étais un peu emporté ces derniers jours quand j'entendais qu'il y avait des cycles de réunions qui se préparaient pour savoir si on allait pouvoir enlever le masque en extérieur. Et donc là, la décision est rapide. Et moi, ce que je n'aimais pas, c'était l'idée que c'était pas grave de faire 3 semaines de plus avec le masque en extérieur. Je pense que ces mesures, elles restent très contraignantes, en particulier quand il fait chaud. Et donc, il faut pas traîner pour prendre la décision quand la décision peut être prise. Et là, c'est le cas. Donc, bravo, c'est très bien. Et je pense que tout le monde va être très content. Il reste des sujets. Il reste, est-ce que les enfants doivent continuer à porter le masque pour les dernières semaines à l'école? Surtout qu'ils le portent dans la cour de récréation, par exemple. Donc, est-ce que ça va être levé? Il faut toujours faire un petit peu mieux, mais globalement, je trouve ça très bien et je salue la rapidité de la décision.
Il y a quelque chose qu'on a tous du mal à comprendre. Les chiffres baissent. On est aujourd'hui à moins de 50, le chiffre le plus important. On est à 40, je crois, ce qui est le taux de...
On est en dessous du seuil d'alerte.
Voilà, en dessous du seuil d'alerte. Mais ce n'est pas lié à la vaccination. Plusieurs fois, vous avez expliqué ça, Martin Blachier. Et on ne comprend pas pourquoi ce n'est pas le fait d'être vacciné qui fait qu'on est moins contaminé.
Alors, c'est lié à plein de phénomènes. La vaccination est très efficace sur la transmission après la deuxième dose. Déjà, il n'y a que les gens qui sont doublement vaccinés, qui sont vraiment protégés pour la transmission du virus, c'est-à-dire pour protéger les autres. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, effectivement, si vous faites les calculs, le taux de vaccinés double dose est insuffisant pour expliquer cette décroissance. Donc, la majorité de la décroissance actuelle est liée à un phénomène saisonnier qui se voit dans tous les pays d'Europe, d'ailleurs, quel que soit leur taux de vaccination, et qui pèse sur l'épidémie. Ça ne veut pas dire que l'épidémie ne peut pas repartir si on faisait n'importe quoi, qu'on se mettait tous dans des salles réfrigérées, sans masque, qu'on se soufflait dessus. L'épidémie pourrait repartir. Mais disons que pour faire repartir l'épidémie en été, il faut vraiment y aller. Et ce point d'équilibre, on est largement en dessous. Donc pour l'instant, on est relativement protégé par l'été.
Mais si on n'était pas vacciné, s'il n'y avait par exemple aucune personne en France vaccinée, les chiffres seraient les mêmes ce matin?
Les chiffres seraient sans doute un petit peu moins bons, mais ils ne seraient pas tellement pires.
Mais c'est ça qui est fou. Franchement, ce que vous dites, vous êtes un des rares à dire ça. Et c'est très difficile à comprendre ce que vous expliquez.
Oui, mais rappelez-vous l'année dernière, hein, vous savez, il ne s'est pas passé grand-chose entre le déconfinement qui a eu lieu mi-mai et la fin octobre. Et vous voyez ce qui s'est passé pendant l'hiver. Vous avez du mal à expliquer comment l'année dernière, alors qu'il n'y avait aucune vaccination et qu'il n'y avait quasiment aucune immunité collective, puisqu'il n'y avait à peu près que 5% des gens qui avaient été contaminés, comment on a pu traverser 4-5 mois comme ça sans qu'il se passe rien. Et on vivait totalement normalement. Les restaurants étaient ouverts, on ne portait même pas le masque. Et donc c'est en imputant dans un modèle l'effet saisonnier de l'année dernière que vous arrivez à expliquer ce qui se fait cette année. En revanche, à l'automne, c'est bien la vaccination qui changera tout la donne.
Bah bien sûr, bah écoutez, comme il y a beaucoup de pédagogie dans ce que vous dites, j'imagine que les uns et les autres ont pu comprendre votre démonstration. On va marquer une pause, Olivier Bois va revenir pour le flash de 14h et William Galibert va...
Je peux aller manger ?
Déjeuner même si vous voulez, pourquoi pas.
Mais je peux aussi vous rappeler les deux informations, mais Olivier va le faire. Le masque, c'est fini dès demain et le couvre-feu, c'est fini dimanche soir.
Eh bien, écoutez, c'est deux bonnes nouvelles. Voilà, il n'y en a pas tant que ça. Rappelez-nous le nombre de jours de couvre-feu, vous l'avez dit tout à l'heure.
Ça dépend un peu des zones, mais aujourd'hui, pour la région parisienne, par exemple, on était à 243 jours de couvre-feu consécutif. Il faut en ajouter quelques-uns pour arriver jusqu'à dimanche.
Et le masque obligatoire, c'est depuis septembre l'année dernière, j'ai l'impression.
C'est ça, oui.
Ah non, pas avant l'été, puisque le 14 juillet, quand le président de la République parle, le 14 juillet, on n'a pas de masque. Et je pense que c'est début août, précisément, que le masque. Donc c'est quand même une nouvelle extrêmement importante. Nous sommes libérés. C'est une bonne chose. À tout de suite.
C'est évidemment une très bonne nouvelle.
Jusqu'à 14h30. Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il est 14h01. Olivier Bois pour les bonnes nouvelles.
Et oui, à la une, l'assouplissement des règles, Pascal, à la faveur de l'amélioration plus rapide que prévu de la situation sanitaire. On va réécouter les deux principales annonces du Premier ministre Jean Castex à l'instant. D'abord, à partir de demain, le port du masque en extérieur n'est plus obligatoire.
Le port du masque en extérieur ne sera donc plus obligatoire, sauf dans certaines circonstances.
quand on se regroupe, quand on se trouve dans un lieu bondé, une file d'attente, sur un marché ou encore dans les tribunes d'un stade. Bien sûr, le port du masque restera obligatoire dans les lieux clos, notamment au travail, dans les commerces, dans les transports et dans tout lieu de rassemblement.
Deuxième annonce du Premier ministre dès dimanche, dans 4 jours, levée du couvre-feu.
Le couvre-feu à 23 heures, qui devait, vous le savez, s'appliquer jusqu'au 30 juin, cessera de s'appliquer à compter de ce dimanche, soit 10 jours avant la date prévue. Si cette mesure de couvre-feu répondait à un vrai besoin pour accompagner la fin de la troisième vague, les très bons résultats enregistrés ne le justifient plus.
Voilà pour les deux principales annonces. Donc la fin du masque obligatoire en extérieur à partir de demain, la fin du couvre-feu à partir de dimanche. Précisons que les règles dans les bars, dans les restaurants, pour le coup, ne changent pas. Les jauges restent en vigueur jusqu'à la fin du mois de juin. La fête de la musique se tient comme prévu, sans couvre-feu donc, avec des concerts qui seront autorisés dans un cadre organisé et en respectant les gestes barrières. Et puis le Premier ministre a rappelé, a donné un nouvel objectif en matière de vaccination. 35 millions de Français complètement vaccinés, 2 doses. À la fin du mois d'août, c'est l'objectif qui a été annoncé tout à l'heure. Ce retour donc à une vie plus libre se justifie par l'amélioration sanitaire. On l'a dit, on rappelle les chiffres en ce moment. Moins de 2000 patients dans les services de réanimation, moins de 5000 cas détectés tous les jours. Ça n'était plus arrivé depuis l'été dernier et cela permet, ce nombre de cas qui baisse, de tracer plus systématiquement les cas contacts. Dans le reste de l'actualité, 6 mois après la disparition de Delphine Jubilard dans le Tarn, son mari Cédric a été placé en garde à vue, interpellé par les gendarmes qui auraient repérer les incohérences dans son récit. Delphine Jubilard avait disparu en pleine nuit pour promener ses chiens qui étaient revenus sans elle. C'est en tout cas ce qu'a toujours dit son mari depuis le début aux enquêteurs. Et puis un dernier mot du Quintet à l'instant, l'arrivée provisoire. Le 4, le 11, le 3, le 10 et le 12.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Nous essayons évidemment d'avoir des réactions des auditeurs et puis aussi parfois des professionnels de la profession. Jérôme Marty sera là dans une seconde, mais c'est Alain pour le moment qui est chauffeur routier qui va nous donner son avis sur ces mesures. Bonjour Alain.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Merci, vous validez, vous êtes content ?
Alors, je suis content parce que on va recouvrer des libertés, mais je suis un petit peu surpris quand même qu'il y ait comme ça une levée des restrictions aussi rapide. On était quand même, l'a dit le Premier ministre, dans la troisième vague. Je trouve quand même qu'il n'y a pas suffisamment de personnes vaccinées pour, à mon sens, se retrouver comme ça, mis à part évidemment dans les lieux clos, etc. Je trouve que ça va un petit peu rapidement et comme incitation pour que les gens se fassent vacciner, eh bien personnellement, je trouve qu'on aurait pu trouver mieux. Parce que maintenant qu'il n'y a plus de restrictions quasiment, eh bien les gens ne verront plus l'opportunité, ne verront pas l'utilité de se faire vacciner. Et donc je trouve, je suis un petit peu surpris. Je suis satisfait, bien sûr. Mais 23 heures, je voyais pas un couvre-feu à 23 heures, je n'en voyais pas trop l'utilité. Par contre, le masque à l'extérieur, effectivement, j'en voyais pas trop non plus l'utilité. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas incitatif à se protéger avec la vaccination, à mon sens. Et vous savez, on est à l'abri de rien. Je ne vais pas être défaitiste, mais on est à l'abri de rien. Il y a des variants qui arrivent. Il y a des régions qui sont encore un petit peu tendues et je trouve que c'est un petit peu rapide et le ton utilisé par le Premier ministre me semble victorieux, mais c'est un petit peu la crier victoire un petit peu tôt pour moi.
C'est formidable en fait cette émission pour ça, d'écouter les auditeurs, d'écouter comment chacun réagit en fonction peut-être de son ADN, de son histoire personnelle, de sa peur, de ses craintes, etc. Vous réagissez Alain à l'opposé de ce que je pense. Je ne peux pas vous dire autrement, mais c'est pas grave, mais je trouve ça à la fois, je suis toujours fasciné et parce qu'en fait, on n'a jamais été dans un autre cerveau que dans le sien. Donc, on raisonne tous avec, avec nos paramètres. Et puis, parfois, je vous écoutais vraiment tout le long, j'entendais ce que vous disiez. Et effectivement, et comme toujours, ça s'entend, ces arguments s'entendent. Quand vous dites « ce n'est pas incitatif », ça peut s'entendre. Ce que vous dites, bien sûr, bien sûr,
mais quel
non mais Jean, mais j'entends ce que vous dites, j'entends que effectivement si plus tu serres la vis, c'est plus les gens sont enclins à se vacciner pour que la vis soit desserrée. J'entends cet argument. Bon, je le partage pas, mais je l'entends. En tout cas, restez avec nous, Alain, parce que Jérôme Marty est là. Et puis c'est vrai, Jérôme. Alors Jérôme, lui, il est habitué. Jérôme Marty, puisqu'il est médecin, donc il est dans le cerveau des autres justement depuis toujours, parce qu'il entend. Les gens dans son cabinet. Mais c'est formidable d'écouter le témoignage d'Alain de ce point de vue-là, Jérôme. Et parce qu'il réagit, comment dire, peut-être avec ce que je disais, ses craintes, son histoire, sa peur, son rapport à la société.
Bien sûr. Bien sûr, et c'est fondé, si vous voulez. Bon, ensuite, on est là sur une période qui est quand même bonne, avec des chiffres qui s'effondrent, plutôt plus rapidement que ce qui était prévu. Je crois qu'il ne faut pas regarder la réalité au travers du prisme des gens qui ne respecteraient pas les mesures barrières ou autres. Je veux dire, les gens sont matures, et si on leur dit aujourd'hui qu'on peut lever le couvre-feu, mais qu'il faut garder le respect des gestes barrières dans certaines circonstances, qu'il faut se vacciner, etc., l'immense majorité de la population, quand même, le fait et est à même de respecter ces choses-là. Donc je crois qu'il faut, on peut maintenant légitimement lever les choses.
Est-ce que vous êtes surpris, j'ai posé cette question tout à l'heure à des professionnels, surpris par la baisse aussi rapide, aussi nette, aussi spectaculaire?
C'est une exponentielle, dans un sens comme dans l'autre. Donc là, il y a une accélération de la baisse, un effondrement même, on peut dire. Ensuite, le problème, comme dans toute courbe exponentielle, c'est qu'on va rentrer en quelque sorte dans cette partie un peu plate, qui est sous le boisseau, qu'on ne voit pas, donc où ça circule très très peu, mais le virus est toujours là. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer à faire attention dans certaines circonstances de la vie, pour qu'il ne redémarre pas, et il faut surtout qu'on soit en capacité de le pister pour que dès qu'il pointe son museau, on lui tape dessus de façon à ce qu'il n'y ait pas de nouveaux clusters et de nouvelles propagations.
Je suis d'accord avec vous, mais le 19 mai, j'ai encore dans l'oreille des professionnels de la profession, et je ne vais pas les citer, des gens qu'on a entendus beaucoup sur les plateaux de télévision ou à la radio, expliquer que c'était trop tôt pour lâcher du lest, que nous allions dans le mur, c'était parfois leurs expressions, qu'on ne voyait pas comment ça allait baisser, il y a une épidémiologie célèbre qui a dit cela, on ne voit pas comment ça va baisser parce que les enfants sont toujours à l'école. Un mois et demi plus tard, moins que cela d'ailleurs, un gros mois plus tard, il n'y a plus rien. Et ce sont des gens dont c'est le métier. Moi je suis étonné.
Ouais, on a eu une cassure quand même dès l'instant où on a fait, souvenez-vous, cette période de 6 semaines avec les fermetures de classe. Ça, c'est incontestable, ça a fait une cassure qui s'est prolongée ensuite par à la fois le comportement des gens, la saisonnalité, une part du fait qu'on a été impacté par le beau temps avec des gens qui sont davantage à l'extérieur, des fenêtres qui sont ouvertes, donc une aération plus importante. Et puis une vaccination qui a progressé. On est quand même, regardez, on est à 30 millions de personnes.
Et oui, mais Martin Blachier m'explique il y a 2 minutes que la vaccination n'a rien à voir avec la baisse.
Ben écoutez, il dit ce qu'il veut. Moi, je vois dans mes cabinets, mes confrères et mes consoeurs me le disent, si vous voulez. On a une véritable demande de cette vaccination partout, pour toutes les générations. Or, ce qu'il faut se dire, c'est que quand même, le véhicule du virus, c'est le corps de chacun, c'est mon corps, c'est le vôtre, etc. Et quand vous êtes vacciné, vous êtes quand même moins pourvoyeur, moins transporteur, même si vous pouvez, dans l'absolu, contaminer, on sait que vous allez excréter beaucoup, beaucoup moins de quantité virale, et donc vous êtes quand même moins contaminant.
Jérôme Marty, merci d'abord, et vous savez combien on vous apprécie, mais malgré tout, j'ai un rêve, c'est le jour où je ne vous appellerai plus.
Et vous savez que ça, c'est le rêve de tous nos patients.
C'est que ce sera bon signe. Alors, je serai triste parce que j'aime bien échanger avec vous. Alors, on vous appellera pour autre chose. C'est promis, quand la pandémie sera arrêtée, on vous appellera pour d'autres choses. Merci, Jérôme Marty.
Merci.
Il est 14h10, une pause.
Au revoir.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Praud,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Nous voulions parler évidemment de la victoire hier soir de la France contre l'Allemagne, mais c'est vrai que les nouvelles de Jean Castex ont un peu modifié le cours de notre émission. Nous sommes avec Aurore, qui est étudiante et qui nous appelle régulièrement, qui a fait Sciences Po, qui fait Sciences Po, qui a 18 ans. Bonjour Aurore.
Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Pro.
Quand vous m'appelez monsieur, je prends 20 ans d'un coup, hein, je vous le dis, mais bon.
Ah, je peux vous appeler Pascal si vous voulez.
Bah là, oui. Bon, tout va bien Aurore?
Bah très bien, écoutez.
Bah vous êtes heureuse?
Je suis heureuse.
Vous êtes joyeuse de ne plus porter le masque à l'extérieur?
Oui, oui, oui. Mais de toute façon, je pense que ils l'ont fait aussi pour désamorcer des situations qui ont pu se retrouver aux Invalides, etc. Je pense qu'ils font ça justement pour désamorcer toutes les situations où ça commençait à, où il y avait de la frustration, où les gens commençaient à ne plus rien respecter parce qu'il y avait trop de mesures et des mesures qui étaient décriées même par certains scientifiques sur l'utilité du port du masque en extérieur et ce genre de choses.
Vous avez eu le sentiment, vous, de respecter globalement les mesures?
Oui, oui, oui. Sincèrement,
c'est votre côté Sciences Po, ça. On respecte la règle.
Non, alors ça dépend des étudiants, écoutez. Mais après, c'est vrai que le couvre-feu, là, ça commençait de plus en plus. On a tous dépassé le couvre-feu, ça c'est évident. Et je pense qu'ils l'ont fait aussi parce que le couvre-feu n'était plus respecté. Les gens commençaient à faire des soirées à l'intérieur où il y a plus de risques de contamination. Là, si on met le couvre-feu... les gens pourront à nouveau sortir dehors, en extérieur, en respectant bien sûr des distances de sécurité, mais on aura moins tous ces clusters qui risqueraient de se former plutôt.
Aurore, vous avez regardé le match hier, peut-être avec des amis?
Ah oui.
Vous étiez où?
J'étais chez moi, à Paris, dans mon appartement, avec des amis.
Et vous étiez combien dans l'appartement?
On était 4.
4, donc c'était assez tranquille. Et dans ces cas-là, vous ne portez pas le masque?
Ah non, puisque on est en permanence ensemble, on mange ensemble, donc on est en permanence, voilà.
Je comprends. Vous êtes vaccinée, Aurore?
Je me fais vacciner la semaine prochaine, ma première dose. Mais c'était vraiment un souhait que je voulais le faire depuis longtemps. C'était une histoire plutôt de disponibilité au niveau des créneaux pour trouver. Mais sincèrement, je le voulais depuis qu'il y a eu le vaccin, quoi.
Vous vous êtes vacciné parce que vous savez que vous-même pouvez attraper la maladie et en souffrir, ou vous vous faites vacciner parce que vous pensez que c'est c'est d'utilité publique d'une certaine manière? Alors, et c'est important de le faire pour les autres.
Voilà, c'est-à-dire que si on fait pas ça, on se retrouvera avec des vagues successives d'année en année. Et je pense qu'on en a tous souffert de ces confinements et ça ne peut pas durer d'année en année. Je pense que la seule solution pour en sortir, c'est de se faire vacciner. Donc pour moi, c'était une évidence en fait.
Bah merci Aurore, merci beaucoup. Merci à 14h16, beaucoup. Bonne journée à vous. On est avec le professeur Djilali Annane, que vous connaissez également, qui est chef du service de réanimation à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, qui était, c'est vrai, parfois très prudent, monsieur Annane, et je vous comprends, parce que tous les jours vous êtes confronté à une réalité, de voir arriver des malades du Covid en réanimation, et forcément ça change peut-être le regard que vous avez sur cette maladie. Est-ce que vous auriez, si vous étiez aux commandes, pris la même décision, à savoir de lever le port du masque à l'extérieur, monsieur Annane?
Bonjour Pascal.
Bonjour.
Bon, tout d'abord, je ne sais pas si j'aurais vraiment anticipé de 10-15 jours, si j'aurais accéléré finalement le déconfinement. Il est clair que la situation sanitaire, elle est favorable en France. Le taux d'incidence est revenu à des niveaux qui permettent de gérer correctement l'épidémie. La vaccination a atteint une proportion assez importante, pas encore suffisante. Il faut se méfier d'un éventuel essoufflement. Et surtout, nous devons ne pas baisser la garde parce qu'on voit ce qui se passe en Angleterre. La France ne sera probablement pas épargnée par le variant Delta. On sait qu'il est présent, 4% environ des tests positifs le sont au variant Delta. Et donc, il est possible que se prépare une quatrième vague à la rentrée, septembre-octobre, à nous, collectivement, de la prévenir. Autrement dit, c'est bien d'avoir levé l'obligation, d'avoir supprimé l'obligation du port du masque à l'extérieur. Ce n'est pas parce que ça n'est plus obligé qu'il ne faut plus le faire, en fonction des situations à risque dans lesquelles on se retrouverait. Et donc, plus que jamais, on en appelle à la rigueur de chacun d'entre nous pour profiter au maximum de la vie, mais de savoir remettre les gestes barrières dès lors qu'on se considère dans une situation à risque. Typiquement, si on est à danser à plusieurs, y compris sur une place publique dans un bal populaire, et qu'on est les uns contre les autres, ou si on est au milieu d'une tribune bondée à suivre un événement sportif quel qu'il soit.
Bah, cette prudence, manifestement, vous ne l'avez pas perdue en route, monsieur Hanan, puisqu'en vous écoutant, et je vous comprends d'ailleurs, on peut comprendre effectivement le professionnel que vous êtes, qui sort d'une année terrible, où vous avez vu tant de gens en difficulté et parfois mourir, je peux entendre et comprendre ce que vous dites. Vous allez rester quelques secondes avec nous, mais c'est important aussi ce que vous avez dit, c'est-à-dire que ne pas porter le masque à l'extérieur, ce n'est pas obligatoire. Si on veut, on peut le porter. Autant c'était obligatoire de le porter, mais si vous souhaitez continuer à le porter, ça, vous avez parfaitement le droit. Le fait de ne pas le porter n'est pas une obligation. 14h19, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Tout a changé ce matin, je n'y comprends rien.
Monsieur Hanan, je ne sais pas si vous alliez valider notre choix musical, parce que la prudence peut rester de mise quand même, c'est pas tout à fait la fête. Simplement pour vous, personnel soignant, vous allez peut-être pouvoir un peu souffler, et c'est important de le dire aussi, monsieur Hanan.
Oui, tout à fait. Encore une fois, il ne faut pas noircir le tableau. La situation épidémique est vraiment à un niveau très bas actuellement en France, et tout l'enjeu pour nous est de le maintenir à ce niveau bas pour diminuer la pression sur les soignants.
Mais c'est-à-dire qu'il n'y a plus de rentrée, par exemple, à Garches depuis quelques jours? Il n'y a plus d'entrée en réanimation chez vous?
Non, malheureusement, nous en avons toujours. Hein. On a encore à peu près plus de 50% de nos patients sont des patients atteints de la Covid-19, et pas plus
en réanimation.
En réanimation.
Et donc, il y a encore des gens, par exemple, ce matin, à Garches, il y a encore des gens qui sont rentrés en réa.
Ah oui, bien sûr, hein, tout à fait. Non, l'épidémie n'est pas finie. C'est pour
et
ça
ce sont des gens qui sont fragiles? C'était des gens qui n'étaient pas vaccinés? Quel est le profil de ceux qui entrent en réa aujourd'hui?
On a encore des gens, effectivement, qui sont passés entre les gouttes, qui ne se sont pas vaccinés. On a des personnes qui ont été vaccinées, mais qui ont levé trop vite les gestes barrières après la première injection, mais qui se sont contaminés ensuite, avant la deuxième injection. Et puis on a rarement, heureusement, des formes chez des patients qui ont eu une vaccination complète.
Donc ça peut exister. Donc quelqu'un qui a été vacciné les deux fois et qui malheureusement entre en réanimation et donc a un Covid dur alors qu'il avait tout pour ne pas l'avoir.
Absolument. C'est rare, heureusement. Et ça concerne surtout des patients qui sont fragiles, notamment qui ont des diminutions chroniques de leur défense immunitaire.
Oui, parce que j'ai appris et j'ai eu beaucoup de témoignages en ce sens-là que les gens qui ont subi des greffes, le vaccin ne passe pas. C'est-à-dire que tu fais une fois, une dose, deux doses, trois doses et le vaccin ne prend pas.
Si vous voulez, d'une façon générale, lorsque vous recevez des traitements qui ont pour but de diminuer vos défenses immunitaires parce que vous avez une greffe, par exemple, ou une autre maladie, eh bien, ces mêmes médicaments vous empêchent de développer une protection liée au vaccin.
Bien sûr. Ben merci, monsieur Hanan. Vraiment, merci. Et vous faites partie de ces médecins qu'on a suivis régulièrement depuis un an. Et merci pour vos éclaircissements aujourd'hui. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
François est là, qui habite Deauville. Bonjour, François. Un mot.
Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bon, ben, c'est bientôt temps de lever des interdictions. On est rempli d'interdictions en France. Et puis, chaque personne doit se prendre en main. Il y en a marre d'entendre. Vous savez, on est géré un petit peu comme les enfants à la maternelle. Il faut arrêter tout cela. Les gens, par exemple, quand ils rentrent dans un endroit, vous avez vu les Chinois, quand ils viennent en France, ils ont un petit truc, c'est-à-dire qu'une gastro ou qui que ce soit, ils mettent le masque par eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais enfin, dans leur pays, ils n'ont pas le choix, ils le mettent obligatoirement. Mais on n'est pas obligé de subir des choses pareilles.
C'est-à-dire que chaque personne doit se responsabiliser. Vous savez, vous êtes dans votre jardin et tombe un cœur d'avion, hein, vous n'avez pas été le chercher, vous tombez dans le museau. Hein, vous voyez ce que je veux vous dire.
Mais oui, mais ça, vous savez bien que ce n'est pas possible, en fait. C'est un vœu pieux. C'est-à-dire que si vous donnez la possibilité à chacun de se responsabiliser, certains le feront, mais d'autres, hélas, ne le feront pas.
Oui, mais on évite d'aller fréquenter des endroits où c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas censés de respecter un petit peu les autres. Ça, je vous conviens. Vous savez très très bien qu'on peut contaminer sur beaucoup plein de choses. Regardez, on parle des vaccins, mais M. Macron, il aurait dû déjà aller monter dans l'avion dès les premières semaines, faire comme comme Israël, aller chercher des vaccins. Ils l'ont attendu, mais c'est un désastre. Alors, s'il ne réussit pas à la fin de... Vous savez, du confinement, ça va encore être un désastre du premier début jusqu'à la fin. C'est un désastre total. Et regardez, on parle des vaccins, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va nous dire? Bon, d'accord, les vaccins, ça sauve énormément de vies sur plein de maladies. Mais qu'est-ce qu'il nous dit pas que ça va pas faire comme l'hépatite B? Moi, j'ai été vacciné d'hépatite B. J'ai pas eu le deuxième vaccin d'hépatite B parce que l'hépatite B a donné des centaines de milliers de sclérose en plâtres. Vous savez très très bien.
François, c'est une discussion longue et comme on est à la fin de l'émission et que malheureusement Flavie Flamand va prendre l'antenne, non pas malheureusement qu'elle prenne l'antenne, mais que malheureusement notre émission est terminée.
Elle vous écoute, vous savez. Hein.
Exactement. Donc je vais laisser notre ami François et à Dovid, et on le rappellera peut-être demain. Bien évidemment, c'est une émission particulière. Merci à l'ami Philippe Rey, merci à Ludovic Van de Kerkhoff. Flavie entre là. C'était une phrase qu'il faut prendre dans son contexte général, Flavie. C'était pas une phrase qu'il fallait prendre au pied de la lettre. Venez à ce micro, venez. On est plutôt joyeux aujourd'hui parce que on ne va plus porter le masque à l'extérieur. Je ne sais pas si vous trouvez si c'est une bonne nouvelle comme nous.
Comme tout le monde, j'ai l'impression de me libérer.
Eh bien, libérez-vous. Dans une seconde, Flavie Flamand.
Libérée, délivrée. Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud.